quand on a un plot comme ça, hyper, un suspense à respecter, on doit faire super attention de ne pas révéler le genre du personnage, par exemple. Si l'autrice ne le fait pas en allemand, et on n'a pas du tout les mêmes manières de genrer en allemand qu'en français, si dès que j'ai un verbe, moi, au passé composé, c'est genré, donc c'est mort. Il faut par exemple que je change le temps du texte pour pouvoir préserver le mystère qu'elle a su préserver sur 400 pages. Et ça, c'est des enjeux qui me plaisent toujours, en fait, parce que c'est vraiment... les gens ne le verront pas, dans le meilleur des cas, en fait. Mais c'est un gros travail et c'est un travail passionnant de traduction.
Bonjour à tous, je suis Zoé et je suis très heureuse de vous retrouver ce vendredi pour une émission qui me tient particulièrement à cœur. D'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre, des milliers de personnes s'attellent chaque jour à traduire des livres et à les transmettre de pays en pays. Ces dernières années, dans le paysage féministo-queer, si je puis dire, ont fleuri plusieurs collectifs, maisons d'édition ou personnalités qui se sont attelées à la traduction pour mettre en valeur, pour transmettre des textes qui n'avaient pas été traduits en français et qui étaient pourtant cultes dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Je pense par exemple à la maison d'édition Hystérique et Associée qui a fait paraître Stonebridge Blues de Leslie Feinberg, classique de la littérature queer que je ne présente plus, entre autres livres de Michel T, Dorothy Allison ou encore Sarah Ahmed. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on fait la part belle à la traduction littéraire. Pour ce fait, je reçois la traductrice d'allemand et d'anglais, Stéphanie Lux. Sois la bienvenue au lobby.
Merci pour votre invitation.
Donc Stéphanie, tu es traductrice depuis une vingtaine d'années, de textes en allemand surtout, puis plus récemment de textes en anglais. Et en 2024, tu as sorti un livre qui s'appelle « Des montagnes de questions » aux éditions de la Contre-Allée et qui parle de traduction. Et c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Pour toi, traduire, c'est se poser des montagnes de questions.
Oui, je pense que ça, c'est une formule, mais qui résume vraiment bien mon métier. Je pense que... En venant, en marchant jusqu'ici, jusqu'au studio, je me suis même dit c'est vraiment comme un instantané de ma pratique, ce livre. Et ça fait quelques mois qu'il est paru et en fait, j'ai pas cessé de me poser encore plein de questions et de réfléchir à cette pratique. Donc oui, je pense que ça résume bien, je pense que c'est vraiment une formule qui convient bien à ma façon d'envisager la traduction littéraire, en fait.
Et comment, toi, tu es devenue traductrice ?
Alors, j'en parle un peu dans le texte. C'était pas un métier dont je connaissais l'existence quand j'étais petite, ni même quand j'étais ado, ni même quand j'ai commencé mes études. Et bien sûr, j'ai lu des livres en traduction. Quand j'ai commencé à lire des livres en allemand ou en anglais dans le texte, puis à un peu voir ce qui advenait du texte en traduction, j'ai compris vraiment un peu l'amplitude de ce métier. Mais comme je le dis dans le texte, j'ai rencontré une traductrice littéraire du danois, Inès Jørgensen, qui était venue faire une conférence à l'université de Nancy 2, où j'ai fait une partie de mes études. Et c'est elle la première personne qui a vraiment parlé du métier de traductrice littéraire. C'est elle qui m'a fait apparaître ce métier, en fait. Et ensuite... par un heureux concours de circonstances, j'avais fait pas mal de traductions dans le cadre de mes études universitaires, mais ça restait des thèmes et des versions. Alors certes, des textes littéraires, mais avec des contraintes beaucoup plus rigides que ce qu'on a vraiment dans le métier de traductrice littéraire. Après ça, en fait, j'ai trouvé par hasard cette annonce qui parlait du programme Goldschmidt pour les jeunes traductrices de l'allemand et du français. Et j'ai eu la chance de participer à ce programme qui a vraiment... encore plus fait apparaître la possibilité de ce métier pour moi et qui m'a permis de signer un premier contrat de traduction. Et ensuite, c'est comme ça que je suis devenue traductrice.
Si tu es invitée dans le lobby, c'est que tu as un lien avec la queerness. Et je voulais un peu te poser des questions par rapport à la toute première page de ton livre où tu dis « J'écris aux féministes génériques, en transclasse et transfuge de langue, en étrangère invisible, berlinoise blanche cisgenre, en travailleuse indépendante précaire et privilégiée, mère séparée, etc. J'écris en lesbienne, avec en moi toutes celles qui m'ont inspirée, ouvert les bras, parlé comme si je savais. » Et ce dernier bout de phrase est de Noémie Grunewald, que tu connais, et qui a aussi publié un livre aux éditions de la Contre-Allée qui s'appelle « Traduire en féministe », dont on parlera sans doute un peu plus tard. Pourquoi exprimer aussi clairement ta position sociale dès le début de ton texte ?
Parce que je pense que c'est peut-être en réaction à cette espèce de mythe du neutre, de l'objectivité, qu'on n'en peut plus d'entendre en fait. Et pour montrer, pour contrer, je vais dire plutôt l'idée du traducteur invisible, en fait, dans les articles de journaux, les recensions de livres, les critiques littéraires, il y a encore beaucoup de journalistes qui parviennent à parler de traduction en citant des morceaux de traduction, des extraits sans parler du ou de la traductrice et sans mentionner son nom. Et entre nous, on se dit un peu dans le métier, bon, encore une œuvre du traducteur invisible ou de la traductrice invisible. Et en fait, je veux être visible, moi, dans ma pratique. Et aussi, je veux aller contre cette idée que tout le monde peut tout traduire. Si je pousse cette idée jusqu'à l'absurde, ça voudrait dire que nous, traductrices, on est interchangeables. Ça voudrait dire qu'il n'y a aucune sensibilité dans nos traductions. Ça voudrait dire qu'un texte littéraire n'a qu'une seule traduction possible, c'est tellement absurde en fait. Donc je tenais vraiment à me situer. Je pense que voilà, c'est une pratique située de la traduction que je défends et une pratique visible de la traduction. Je sais que si on confie un texte à une collègue, même qui a une sensibilité voisine de la mienne, il en sortira deux traductions un peu différentes, mais deux traductions quand même. C'est quand on traduit un texte littéraire, il y a deux œuvres. Il y a l'œuvre de départ et il y a l'œuvre d'arrivée. Et je pense que tout ça est lié à l'endroit d'où on vient, à comment on est arrivé à certains textes. Et comme je le dis dans le texte, tu sais, il y a des livres que j'ai choisis et il y en a d'autres qui m'ont été confiés. Et je pense que ça aussi, il faut l'exprimer, il faut le montrer. Enfin, il faut en fait montrer le plus possible, et cette collection m'en a donné l'occasion, montrer le plus possible ce que c'est la traduction, ce que ça implique, ce que ça veut dire. Qui traduit quoi et comment et pourquoi. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer comme ça dès l'introduction en fait.
Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis, que le choix d'un ou d'une traductrice par les maisons d'édition sont politiques. Et est-ce que toi, ça a changé quelque chose dans tes travaux et peut-être ton rapport même aux maisons d'édition d'être ouvertement lesbienne?
Oui, parce que. Alors, c'est. Moi, j'ai un parcours. Un parcours peut-être plus du classique. En fait, comment dire, j'ai un parcours qui est à la fois un parcours de transfuge de classe, de transfuge de langue, comme je le dis, mais un parcours quand même plus classique, entre guillemets, parce que avec des études universitaires d'allemand, et je me suis dirigée, en fait, et j'ai voulu en faire mon métier, donc j'ai voulu essayer d'en vivre, donc j'ai dû faire pas mal de compromis, accepter des textes de commande. J'ai pas toujours pu choisir les textes que j'ai traduits. Au départ, en tout cas. C'est de plus en plus le cas pour moi de pouvoir choisir les textes que je traduis. Et donc, ça me permet de donner à ma pratique professionnelle une direction plus personnelle, justement, plus en accord avec ce que je suis maintenant. Et mon parcours, mon chemin, mon cheminement personnel, en fait. Et donc, oui, ça change pas mal de choses parce que je pense que quand on a traduit certains textes très féministe, on a du mal à revenir en arrière, on a du mal à accepter un texte, je sais pas, d'un énième vieil auteur blanc qui ne se pose aucune de ces questions, ça devient très difficile. Ou alors il faut vraiment assumer de prendre un job alimentaire, mais c'est compliqué parce que la traduction littéraire n'est pas suffisamment rémunérée pour se dire... Et puis, on y laisse des plumes toujours. On ne sort pas indemne des textes qu'on traduit. Donc, en fait, c'est souvent un mauvais calcul de se dire c'est pas grave, je vais le faire quand même. Ça ne m'apportera rien, mais ça ne me retranchera rien. En fait, ça nous retranche toujours quelque chose. Déjà, ne serait-ce que de l'énergie et du temps de vie, en fait. Mais bon, quand on n'a pas le choix et qu'on essaye d'en vivre, il faut bien parfois faire ce type de compromis. Mais si on peut les éviter, voilà, c'est ce que j'essaye de faire le plus. Possible.
T'as l'impression que du coup tes lectures personnelles ont de plus en plus rencontré tes choix professionnels ?
Oui, oui, mais c'est pas évident à établir. Et en fait, pour ce qui est de la traduction de l'allemand en particulier, j'ai beaucoup pu, moi, apporter des projets, donc proposer des textes qui me tenaient à cœur et qui ont été, dont les droits de traduction ont été achetés par les maisons d'édition françaises. Mais ça, c'était... avant le Covid, je dirais, avant la pandémie, c'était un peu plus facile. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec plein de facteurs différents, mais dont la pandémie.
Tu veux dire que ça a joué un rôle financier ?
Oui, la crise du papier, par exemple, les coûts de production du livre qui augmentent. La littérature allemande n'étant pas une littérature qui se vend super bien. Donc, c'est compliqué. Je veux dire, moi, je peux découvrir des autrices, entre guillemets, que j'adore. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à les amener ici. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment de la production littéraire germanophone. C'est vraiment une toute petite partie, une toute petite fraction de ce qui paraît en Allemagne, en Autriche, en Suisse, etc. Et qui peut être super intéressant. Mais si on ne s'y intéresse pas ici, on va retomber sur des textes avec les mêmes thèmes historiques, les thèmes qu'on attend de l'Allemagne, la chute du mur, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et c'est compliqué pour les textes plus féministes ou plus... Parce qu'on aurait tendance à nous dire « Oui, mais pourquoi lire un texte comme ça, écrit en allemand ?» On a des autrices françaises qui traitent de ces thèmes. Il n'y a pas un intérêt suffisant, je trouve, pour la littérature germanophone qui dit « C'est une littérature à part entière, écoutons-la aussi. » Comme ce qui est le cas pour l'anglais. En fait, je me disais récemment, j'ai commencé à traduire un peu plus de l'anglais. J'ai eu l'impression de me tourner vers le soleil, en fait. D'avoir ramé dans l'ombre là pendant 20 ans pour essayer de faire connaître des autrices allemandes en français. Et quand on traduit de l'anglais, tout le monde attend, tout le monde est intéressé, tout le monde attend le titre, tout le monde a entendu parler de la personne que tu vas traduire. C'est une drôle d'expérience pour moi.
Souvent, sur les couvertures des livres, on ne voit pas du tout le nom de la traductrice. Même s'il y a quand même certaines maisons d'édition qui font cet effort-là, j'ai l'impression que ça a un peu changé, mais quand même, c'est assez rare. Est-ce que, pour toi, c'est important cette reconnaissance ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des évolutions dans le monde de l'édition ?
Oui, alors, j'ai beaucoup traduit pour Actes Sud. Actes Sud est une des maisons qui a tout de suite, je pense, mentionné le nom des traductrices sur la couverture. Donc, j'ai été gâtée, entre guillemets, d'avoir... la plupart de mes traductions avec mon nom sur la couverture. Après, c'est pas le cas de toutes les traductions dans toutes les collections. Je pense que les choses bougent et qu'on a conscience qu'il faut nommer la traductrice au même, presque sur le même plan que l'autrice, parce que comme je le disais à l'instant, c'est deux œuvres en fait.
D'ailleurs, tu tiens un compte Instagram, Lux Berliner, où tu tiens une sorte de journal de bord de tes traductions, où tu documentes ton travail. Et tu as créé un mot-clé, hashtag la vie de traductrice, pour qu'on puisse facilement retrouver tes projets. Est-ce que, au-delà de donner de la visibilité au métier de traductrice, peut-être, est-ce que ce serait un peu ta manière de militer ? Je ne sais pas si je peux le formuler comme ça.
Alors, c'est une vaste question, surtout en ce moment, parce qu'en fait, là, je suis en train de me poser beaucoup, beaucoup de questions. J'ai envie de partir, mais je suis allée voir ailleurs et visuellement, ça ne me plaît pas trop. Donc, je ne sais pas encore trop quoi faire. Puis, je ne retrouve pas les gens. Donc, voilà. J'ai beaucoup utilisé Instagram comme une sorte de journal de traduction, en effet. C'est aussi, il faut dire que, à part quand on traduit peut-être en collectif, ça reste quand même un métier solitaire. C'est vrai qu'on est seul devant son ordi. Donc, si on a un compte Instagram et qui permet d'entrer en contact avec des collègues ou de se faire connaître un peu des lectrices ou de recevoir des retours de lecture, en fait, c'était gratifiant et c'était... hyper intéressant. Et puis, on peut se constituer un réseau qui va en plus dans nos sens d'un... le sens de nos intérêts, peut-être plus queer ou militants, de découvrir des textes comme ça ou se créer un peu des réseaux professionnels qui vont plus dans ce sens-là. Ça, pour ça, Instagram, ça a quand même bien fait bouger des choses. Je pense que ça a créé des liens entre les gens. On va voir si on peut y rester. J'en doute maintenant, mais ouais, c'était en tout cas une bonne plateforme, je crois, aussi pour sortir de la solitude du métier et puis faire un peu cette promo ou ce travail de se faire connaître qu'on est un peu obligé de faire soi-même aussi dans ce métier.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a peut-être plus de visibilité et du coup plus de traduction en termes de livres queer ces dernières années ? En tout cas, est-ce qu'il y aurait une sorte de climat politique ou éditorial qui permettrait ça ?
Alors oui, très certainement. Après, Il y a, alors c'est, il y a beaucoup de textes, comme tu le disais en introduction, qui sont redécouverts, qui sont enfin traduits. Et ça, c'est vraiment formidable. Après, ça, c'est vrai que je crois que ça reste quand même principalement des textes traduits de l'anglais, en effet. Donc là, pour moi, c'est bien parce que je commence à être un peu plus à l'aise en traduisant aussi de l'anglais. Donc c'est une langue vers laquelle moi, je peux me diriger, mais c'est vrai que ça, si ça pouvait s'ouvrir encore plus à d'autres langues et d'autres régions du monde, ça serait encore mieux. Je vais commencer là à traduire pour B42 un essai sur la solidarité de Sarah Schulman.
Qui va sortir simultanément en anglais et en français ?
Quasiment. En fait, ça va sortir en avril. En fait, pas quasiment, puisque ça va sortir en avril aux États-Unis et je vais rendre la traduction en octobre, donc ça sortira certainement au printemps prochain, printemps 26 en France. Mais
ce qui est quand même beaucoup plus court, parce que par exemple son dernier
exactement,
livre,
c'est ça.
Les liens qui empêchent, voilà. C'était sorti en 2009, ça a été traduit l'année dernière.
Je me faisais cette réflexion-là en fait récemment. En fait, B42 a découvert cette autrice et a acheté les droits de traduction de certains de ses textes. Mais par exemple, La gentrification des esprits, c'était un texte qu'elle avait publié dans les années 90 et qui a été traduit très très tard, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Et donc là, c'est la première fois en fait qu'un de ses textes va être traduit tout de suite. Et c'est un essai, donc, elle a écrit bien sûr des romans et des essais, mais pas que, enfin, plein d'autres genres littéraires aussi, un essai qui est très actuel, dont certaines parties avaient été un peu déjà publiées dans des revues ou des recueils d'essais, et sur la solidarité en lien avec le conflit israélo-palestinien. Donc c'est vraiment très, 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 très actuel.
Et du coup, pendant qu'on parle un peu de tes projets en cours, parce que pour la préparation de cette émission, tu m'as parlé de plusieurs projets, est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se passe, le choix d'un texte à traduire ? Enfin, donc, tu disais que c'était toi qui pouvais proposer des livres. Comment ça s'articule, ces différentes manières de traduire ? Par exemple, ce projet avec B42, est-ce que c'est toi qui y as proposé ou est-ce que c'était une proposition de leur part ?
Non, c'était une proposition de leur part et ça, c'était un effet heureux de l'apparition de mon essai à la Contre-Allée. C'est l'éditrice qui m'a contactée pour le traduire. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Après, quand c'est moi qui propose un texte, j'ai une sacrée longueur d'avance puisque je me suis déjà intéressée au texte. S'il faut, je l'ai déjà lu en entier et puis j'ai déjà des idées à qui le proposer, etc. Donc là, la temporalité est complètement différente. Parmi les projets que j'aimerais faire, par exemple, il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, c'est la biographie d'Anne Lister, qui a été écrite par une chercheuse allemande, Angela Steidle. Et donc ça s'appelle Anne Lister, eine erotische biographie, donc une biographie érotique qui donne l'angle d'approche de la vie d'Anne Lister, qui a eu une vie incroyable, aventurière, grande propriétaire terrienne, etc., etc., mais aussi et surtout amante et lesbienne, et avec beaucoup d'aventures qu'elle décrit dans un journal en partie crypté qui fait 11 000 pages.
Ah oui, que tu as lu en entier ?
Non, pas du tout. mais en fait, il y a des personnes qui ont fait des recherches sur ces journaux et qui en ont édité des extraits, par exemple. Et en fait, la grande particularité de ce texte, et ce qui rendrait pour moi ce projet hyper intéressant, c'est que c'est une traduction à la fois de l'allemand et de l'anglais, parce que la biographie est donc écrite en allemand. Et c'est un genre littéraire aussi exigeant, etc. La biographie, donc, elle est assez longue en plus, très détaillée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations des journaux d'Anne Lister dans cette biographie. Donc moi, j'ai à la fois chez moi le texte en allemand, avec la traduction par l'autrice vers l'allemand des citations des journaux d'Anne Lister. Et ce texte a été traduit vers l'anglais par une traductrice que je connais un peu, qui vit à Berlin, qui s'appelle Katie Derbyshire. Et donc, elle a fait un travail très particulier. Elle a traduit de l'allemand vers l'anglais la biographie et elle a réintégré les citations originales des journaux d'Anne Lister. Donc moi, je vais... Si ça fonctionnait...
Sans aucune traduction
Non, sans aucune traduction, donc la langue de l'époque, donc 19e siècle, etc. Et moi, si j'arrivais à placer ce projet, ce qui serait dingue, eh bien, il faudrait que je traduise à la fois de l'allemand contemporain, qui est la biographie d'Anne Lister, dans une langue voilà, un peu classique, mais d'aujourd'hui, quoi, 2017, et ces citations-là du 19e siècle de l'anglais. C'est un sacré défi. Et c'est hyper intéressant. Mais je pense que c'est vraiment, au-delà de la longueur du projet, je pense que c'est un sacré casse-tête, en fait. Et qu'il faudrait travailler là-dessus avec, je pense, une bourse de travail pour pouvoir vraiment faire des recherches, prendre le temps. Parce que ça m'intimide quand même pas mal de passer à une époque aussi lointaine, en fait, et de l'anglais en plus. Enfin, j'ai pas envie de faire des anachronismes, etc. Donc, en fait, voilà. Mais ça, c'est un projet que j'aimerais beaucoup, beaucoup placer.
Et comme tu l'as dit au lobby, ça va se réaliser.
Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'espère. Et voilà, donc ça, c'est... Voilà, il y a des projets comme ça. Il y en a d'autres qui m'arrivent complètement par hasard ou qui ne demanderaient pas autant de temps, peut-être, et pas autant d'inventivité, j'en sais rien. Voilà, c'est quand même, quand on en fait son métier de la traduction, on ne peut pas faire que des projets comme ça. Et voilà, il y a forcément des fluctuations. D'ailleurs, on passe souvent d'un genre littéraire à l'autre, d'un degré de difficulté du texte à un autre, et on apprend toujours beaucoup de choses, mais voilà, on sollicite le cerveau de manière très différente tout le temps.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Est-ce que tu peux aussi nous parler de ton projet de Perfect Day de Romy Hausmann?
Oui, alors ça c'est un thriller que je traduis pour Acte Noir, donc c'est son troisième thriller, c'est assez éprouvant, c'est pas le genre de lecture que j'aime faire désormais, surtout quand il y a des violences voilà, envers les enfants, ou ce genre de choses comme c'est le cas dans ce texte-là. Mais c'est un genre qui est assez, quand c'est bien fait et qu'on se prend soi-même au jeu en tant que traductrice, c'est assez marrant à traduire, je dois dire. Bon, je te disais, pardon, en préparation, que je trouvais intéressant chez Romy Hausmann, qu'en fait, c'est une autrice mainstream, on pourrait dire, mais voilà, elle vend beaucoup de livres. C'est pas du tout mal écrit, au contraire, en fait, c'est bien fait, donc pourquoi pas, tu vois, elle maîtrise bien son genre littéraire, donc voilà, c'est bien. Et ce que je trouve intéressant chez elle, c'est qu'elle a souvent des personnages lesbiennes et c'est pas vraiment le thème du livre et donc c'est assez discret et donc je m'amuse moi de voir que je pense qu'il y a des gens qui comprennent à différents moments de la lecture en fait. Et je trouve que c'est cool de normaliser les personnages queer, évidemment. Et c'est pas forcément des personnages qui meurent à la fin. Et c'est pas forcément voilà, des fins hyper tragiques pour ces personnages-là. Et c'est des personnages qu'elle présente avec la même évidence que tout le monde nous présente tout le temps, depuis la nuit des temps, des personnages hétéros. Donc en fait, j'aime bien et c'est... Ça fait que comment il y a des challenges quand même de traduction assez intéressants aussi dans ces livres parce que quand on a un plot comme ça hyper enfin un suspense à respecter, on doit faire super attention de pas révéler le genre du personnage par exemple si l'autrice ne le fait pas en allemand et on n'a pas du tout les mêmes manières de genrer en allemand qu'en français. Si dès que j'ai un verbe moi au passé composé c'est genré donc c'est mort. Il faut par exemple que je change le temps du texte pour pouvoir préserver le mystère que elle a su préserver sur 400 pages. Et ça, c'est des enjeux qui me plaisent toujours, en fait, parce que c'est vraiment... les gens ne le verront pas, dans le meilleur des cas, en fait. Mais c'est un gros travail et c'est un travail passionnant de traduction.
Et du coup, dans ce cas-là, tu te refuses à choisir un genre pour le personnage. Tu t'essayes vraiment de...
Bah, je fais attention, vraiment, je regarde à quel moment est-ce que c'est révélé dans le texte allemand et je m'astreins à ne pas le faire avant elle, tu vois. Et donc... Ça implique de s'éloigner un peu plus du texte parfois, de changer le temps du récit par exemple, ou en tout cas pour une scène qui devrait être au passé composé, je la remets au présent parce que je ne peux pas garder le mystère sur le genre si je suis au passé composé. Bah en fait, c'est aussi pour dire, évidemment, je veux dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que j'accorde le même soin à la traduction d'un livre dit de genre qu'un livre classique, plus classique, ou en tout cas d'un genre littéraire plus classique, et que ça pose des questions de traduction qui sont passionnantes aussi.
Et j'avais un peu envie de lire un extrait du livre de Noémie Grunewald qui parle de ce que c'est que de traduire en féministe. Mais moi, je trouve qu'on pourrait aussi bien l'appliquer à notre thème du jour, qui est un peu quelque part de traduire en queer. Donc je vais lire un petit passage. Traduire en féministe, c'est lutter contre la violence des dominants sur la parole des opprimés. Refuser de participer à son effacement et à son instrumentalisation en reconnaissant nos forces et nos limites. C'est résister dans la langue, s'appuyer sur nos camaraderies, nos sororités, nos amours, nos connivences, nos liens politiques et affectifs. Quand on parle d'engagement, j'ai tendance à mettre de côté l'affect. Je ne considère pas qu'on a besoin d'être copines pour lutter ou travailler ensemble. Mais c'est sans compter les slogans, les articles, les concepts et les banderoles qui sont nés sur les oreillers des amantes. Traduire en féministe, c'est choisir un regard, une interprétation, poser une analyse critique du monde et décider de contre-attaquer en plaçant les femmes en son centre. J'imagine que tu es d'accord avec son propos.
Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Je la cite à plusieurs reprises dans mon texte et il y a un moment où elle dit traduire pour changer le monde. Bien sûr que c'est ce que j'ai envie de faire. Après, je pense que toutes les deux, on a un parcours qui est très différent. Moi, je suis partie, même si je suis transfuge de classe, et comme je le dis dans le texte, et j'ai pas une formation super prestigieuse et que j'ai traduit, plutôt j'ai appris au fil des textes, etc. J'ai quand même un parcours classique parce que j'ai fait des études d'allemand, enfin parcours classique pour l'allemand en tout cas, pour l'anglais pas du tout, mais je suis partie en fait de... C'était mon métier et donc j'ai fait des compromis, j'ai traduit des textes, j'ai fait un peu mes classes comme ça en traduisant des textes et maintenant j'arrive... ou de plus en plus depuis quelques années à me diriger vers des textes que j'ai envie de traduire et qui sont plus queer et plus féministes, etc. Et en fait, Noémie vient du militantisme lesbien et féministe. Et donc, elle n'en a pas fait son métier coûte que coûte, ou en tout cas avec des textes avec lesquels elle aurait dû faire des compromis. Donc c'est des démarches très différentes, mais je me retrouve bien sûr dans ce qu'elle écrit et dans ce qu'elle dit. Et j'ai envie vraiment de plus en plus de traduire des textes qui sont importants, à faire découvrir absolument au public francophone, etc. Et je sais aussi, de manière plus prosaïque, que comme c'est mon métier depuis longtemps, il y a des textes qui posent ce genre d'enjeux et qui permettent aussi de se les poser, et d'autres moins quand même. Donc voilà, j'aimerais ne traduire que des textes qui avec lesquels je peux réfléchir à ce genre de questions, parce que voilà, c'est un métier qui est précaire, il est assez difficile d'en vivre en fait, et on est payé au feuillet de traduction et on n'est pas payé pour autre chose, ce qu'on fait autour. Alors on a intérêt vraiment à être rapide, non, mais surtout en fait à ce que ça soit vraiment une passion et à ce que tout ce qui est autour et qui n'est pas rémunéré en général, à moins d'avoir des bourses de recherche, etc., fasse partie du truc qui nous fait vraiment vibrer, les recherches sur tel ou tel thème, les relectures, le fait de croiser d'autres textes pour comparer, etc.
À la fin de ton livre, tu fais une petite liste de livres qui t'ont accompagné pendant l'écriture, et je trouve ça assez, assez beau de voir les liens qu'il y a entre autrices.
Mmh. Oui, alors en fait, je pense que comme ça faisait quelques années que je voulais écrire des réflexions sur le métier, et je m'étais penchée sur cette collection parce que je l'avais découverte avec le premier texte, celui de Corinna Gepner, Traduire ou perdre pied, donc cette collection La Contrebande aux éditions La Contre-Allée. Quand j'ai commencé à mettre mon texte un peu en forme et à me dire que j'allais peut-être le proposer, j'ai lu tous les textes de la collection qui sont très différents. et qui m'ont apporté des choses très différentes. Mais bah, j'aime en tout cas lire des textes sur la traduction, c'est sûr. Écouter des podcasts sur la traduction, enfin, entendre les gens parler de leur métier, parce que je trouve qu'il y a, bah, il y a autant de façons de le pratiquer que de traductrice. Pour peu que les gens, mais c'est souvent le cas, mais prennent la peine de parler sincèrement de leur manière de faire, en fait, et de nous ouvrir leur atelier. Je cite des autoristes à la fin du texte qui, moi, m'ont donné envie d'écrire, par exemple. Parce qu'elles ont une espèce d'humilité et aussi de manière de montrer qu'on peut écrire par fragments, que les formes classiques ne sont pas du tout obligatoires, c'est un mauvais mot, mais qu'on peut prendre des chemins de traverse, qu'on peut écrire de plein de manières différentes.
Merci d'avoir été avec nous pour cette émission, Stéphanie Dux. On mettra les références de tes dernières traductions en description pour que les auditeuristes puissent les retrouver. Et on va suivre de près la parution des prochaines. Comme chaque vendredi, nous nous quittons avec une découverte musicale. Aujourd'hui, I Love You de Louise BSX qui vient de sortir un album appelé Trop Love après l'EP Trop Bonne Trop Conne, très remarqué. Cet épisode a été préparé par Zoé, réalisé par Colin et mis en ligne grâce à Radio Campus Paris. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux, alternatifs si possible, et à parler de traduction queer autour de vous. Salut !